moins pour le monde, que les autres puissent compétir, ça rend les gens plus forts, et j'espère que les Africains vont prendre la mesure, parce que les Jamaïcains ne sont pas mieux préparés physiquement que les Africains, mais nous, notre problème, ça reste la fois un problème organisationnel et des moyens, l'aspect musculation et tout ce qui entraîne le sport, bien sûr les financements, et je pense que nous pouvons aussi atteindre ce niveau.
Alors Eugène, les financements ne font pas défaut ici aux États-Unis. Alors comment expliquer ce recul de l'athlétisme aux États-Unis? Est-ce qu'il y a peut-être quelque part un désintérêt des jeunes Américains vis-à-vis de ces disciplines?
Non, je pense pas. Je pense plutôt que le financement est toujours là. Je pense que les gens sont toujours intéressés. Mais je crois plutôt que c'est les autres pays qui rattrapent, spécialement tous ceux qui sont dans les îles, que ça soit Trinidad et Tobago, que ça soit la Jamaïque, toutes les petites îles qui sont aux alentours des Américains, des États-Unis, arrivent à se frotter dans les compétitions avec ces athlètes américains qui côtoient tous les jours dans les universités, dans les différentes courses d'athlétisme qu'il y a sur le continent américain. Et il n'y a pas de complexe, les gens savent exactement ce qu'il faut faire, ils ont des entraîneurs de la même capacité, d'ailleurs certains s'entraînent avec les mêmes entraîneurs que les Américains, et c'est cela qui fait la différence. Je suis convaincu que si les Africains pouvaient faire la même chose, et qu'on avait des gens qui commençaient très jeunes, et qui viennent dans cet environnement, on va atteindre ces mêmes résultats. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'en Afrique, on puisse développer nos programmes à travers les programmes olympiques et que réellement les financements des programmes olympiques servent à financer le développement de ces sports-là.
Merci. Eugène, nous allons prendre notre premier auditeur de ce soir. C'est Ndala Lousala Marcel de RDC. Bonsoir. Allô, Marcel? Allô? Voilà, nous avons quelques soucis avec Marcel. Quelques réactions de nos auditeurs sur Facebook. Notre ami Adelar Nkurunziza écrit « La performance de l'Afrique dans les mondiaux de Pékin montre que les Africains ont évolué, mais malheureusement, les moyens financiers se font difficiles. » Et nous avons aussi Irénée Yemaline Akonde, du Nigeria, donc qui écrit vraiment dans toutes les disciplines, les Africains occupent 95% sur le plan mondial, donc ils sont vraiment à féliciter et encourager. Et donc nous avons aussi Yaya Mamad Oumar, lui qui écrit vraiment tous les Africains, on occupe 50%. Je rêve du jour où ils vont être les meilleurs du monde. Donc, beaucoup d'enthousiasme des Africains au sujet de ces Kenyans. Jules, vous l'avez souligné, on a vu le Kenyan Julius Yego qui a remporté l'or au javelot, une discipline traditionnellement dominée par les Européens, Jules.
Et effectivement, là, c'est une exception. Et comme on a vu, il y a deux Jeux olympiques successifs, je crois, la sauteuse de triple saut, Mbango, qui a gagné deux médailles d'or successives aux Jeux olympiques, et je crois en Grèce et également en Chine. Et tout cela a dépassé les 15 mètres, alors que pendant cette compétition, la championne était à moins de 15 mètres. Donc, c'est dire que les Africains ont les capacités physiques, le potentiel pour pouvoir s'exprimer dans toutes les disciplines. Mais et s'ils s'expriment plus dans les disciplines de fond ou de demi-fond, c'est que ça demande peut-être un peu moins de moyens et, disons, beaucoup plus de rage. Donc, en quelque sorte, l'envie de réussir les pousse à faire des sacrifices.
Voilà, on me signale que nous avons au téléphone notre ami Yaya Mamad Oumar. Bonsoir, Yaya.
Bonsoir, monsieur.
Voilà, allez-y.
Bonsoir, je vous écoute.
Oui, et donc nous parlions de la prestation du Kenya au championnat du monde d'athlétisme de Pékin, le Kenya qui est aujourd'hui la meilleure équipe mondiale d'athlétisme.
Les voix de l'Afrique, je vous souhaite bonsoir. Allô?
Oui, allô? Voilà, nous avons quelques problèmes là avec notre auditeur, Yaya Mahamat Oumar. Notre auditeur Mamadou Fabrice Ganou écrit « Cette performance va beaucoup plus motiver l'ensemble des pays africains à s'investir davantage dans cette discipline sportive, dans l'athlétisme donc, qui est un peu négligée dans certains pays. » Jules, vous en parliez tantôt, l'athlétisme est le parent pauvre du sport en Afrique.
Oui, c'est le parent pauvre quand on voit les athlètes africains s'entraîner réellement. Ils sont en retard de deux générations au moins de deux civilisations pratiquement par rapport à leurs concurrents venus des pays les plus développés. Et donc, je trouve que grâce à la mondialisation, ils peuvent se frotter, comme on l'a dit tout à l'heure, aux meilleurs dans les grandes universités, sont sélectionnés le plus souvent et appelés tout de suite par la haute compétition. Et donc, nous finirons par gagner sur ce terrain et à moyens égaux, ils montrent qu'ils peuvent faire les mêmes performances.
Sporama sur les ondes de VOA Afrique, nous vous retrouvons dans un instant. Timothée Donangmaï en votre compagnie dans cette édition de Sporama sur les ondes de VOA Afrique. Nous avons en ligne notre consultant sportif Jules-Valentin Goué. Et il est à Libreville au Gabon. Nous avons également dans le Maryland, ici aux États-Unis, Eugène Pewa Pelema. Et nous sommes maintenant rejoints par notre correspondant Ahmed Insi, qui se trouve à Tunis, où il a assisté au tour de force du Nigeria, vainqueur de l'Angola en finale du championnat d'Afrique de basket homme. Bonsoir Ahmed Insi. Voilà, alors ce tour de force du Nigeria, comment l'avez-vous vécu ?
Voilà, comme vous l'avez dit, le Nigeria qui a mis un terme à l'hégémonie de l'Angola, car les Nigériens sont devenus les nouveaux rois d'Afrique. Les 10 Tigers, comme on les appelle, ont remporté la 28e édition du championnat d'Afrique des nations masculins, communément appelé l'Afrobasket, en surclassant cette équipe d'Angola sur le score de 74-65. Avec ce succès, le Nigeria goûte à la gloire d'une victoire finale d'un championnat d'Afrique, car ils ont échoué à 3 reprises, en 97 face au Sénégal, mais également à 2 reprises face aux Anglais, en 1999 et en 2003. Cerise sur les gâteaux, Timothée, les Nigérians sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de 2016. Il faut dire que ce n'est que... car l'attente a été longue, hein, car les Nigérians attendent depuis 18 ans, mais ils ont eu cette année une génération fantastique, hein, car un joueur comme Sam Plein, un joueur comme Farouk Amedi qui joue en NBA, et le vétéran Lawal ont sorti le grand jeu, surtout face au Palanca Negras, pour écrire de la plus belle façon leur nom au palmarès de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que sur le plan individualité, le Nigeria a brillé. Ils avaient l'habitude de briller sur le plan individualité, mais non pas sur le plan collectif. Mais cette année, ils ont quand même... Allô?
Oui, allô?
Et cette année, ils ont allié spectacle et efficacité, hein, en jouant collectif, mais il y a eu des individualités comme le MVP Chandelain qui a sorti le grand jeu, notamment comme contre le Sénégal, où il a marqué 8 tirs primés. Il a remis ça lors de la finale. Donc cette équipe du Nigeria est exceptionnelle, cette équipe du Nigeria qui a mis fin à la suprématie quand même de cette équipe angolaise qui avait gagné 11 des 13 derniers titres, pour vous dire que c'est vraiment un exploit réalisé par ces Nigériens, et je pense qu'ils l'ont mérité.
Merci. Ahmed Insi, Eugène, un changement de garde au niveau du basketball masculin en Afrique ou bien simplement un faux pas des Angolais?
Non, mais je pense que, comme le précédent auditeur l'a dit, c'est vraiment une victoire méritée de la part du Nigeria pour la première fois. En tout cas, moi, j'ai souvent vu les Nigérians, j'ai joué contre eux dans plusieurs compétitions. Ils ont toujours manqué de discipline. C'était des joueurs super forts. Je me rappelle encore l'édition de 97 à Dakar. Ils avaient une superbe équipe qui aurait pu d'ailleurs remporter ce championnat d'Afrique. Ils avaient battu d'ailleurs au tour préliminaire le Sénégal à la maison à Dakar. Mais malheureusement, la discipline a toujours été leur problème. Et c'est la première fois qu'on voit une équipe nigériane qui est complète, que ce soit au niveau des meneurs, au niveau des arrières, des ailiers et l'intérieur de jeu, et suivre ce que leur coach leur demande de faire pour venir à l'Angola. L'Angola demeure, même avec la défaite, le plus grand programme de basketball africain. Il faut qu'on se rappelle que depuis 83, c'est-à-dire ça fait 32 ans, que l'Angola est sur le podium constamment. Et comme l'a dit tout à l'heure, ils ont quand même gagné 11 titres. À part le titre qu'ils avaient perdu en 2011, ils ont gagné tous les titres depuis 1999 à ce jour. Et c'est fantastique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une petite panne. Ils ont des joueurs qui sont vieillissants. Il va falloir qu'ils renouvellent la garde. Mais il reste le programme par excellence. Le Nigeria, avec sa population de 200 millions d'habitants, s'ils développaient leur programme, devraient dominer le basketball africain, car ils ont le facteur humain qui est à leur avantage. Mais je respecte ce programme angolais qui, pour nous, les Africains, devrait être celui qu'on doit regarder pour aller de l'avant.
Jules Valentin Ngoué.
Oui, il faut ajouter aussi que la compétition ne fait que progresser en niveau. Je vois par exemple celle de 2009 où on a vu également l'apparition de nouvelles nations. Le Caraïbes, c'était Angola, Cameroun, Cap-Vert. Bon, donc là maintenant, par la suite, on a vu la Côte d'Ivoire arriver et on se retrouve ainsi dans une compétition où toutes les équipes ont perdu au moins un match et où, ma foi, l'Angola a été battue deux fois par le Sénégal et le Nigeria. Le carré d'as qui nous est présenté est le meilleur du tournoi. Nigeria, Angola, Tunisie et Sénégal. Mais il y a des équipes comme l'Égypte et le Cap-Vert qui n'ont perdu qu'une fois. Et le Cameroun, le Mali qui ont fait aussi bonne impression. Et je peux citer aussi le petit pousset du départ, le Gabon, qui a su profiter du système d'organisation pour être quart de finaliste avec une seule victoire sur cinq matchs. Donc, d'une manière générale, il y a un nivellement des valeurs qui est intéressant pour le relèvement de ce sport en Afrique.
Ahmedine, si en dehors du dernier carré, quelles sont les autres équipes qui vous ont impressionné?
Voilà, il faut parler de la Tunisie, le pays hôte qui a terminé à la troisième place. Les Aigles de Carthage qui ont dominé en demi-finale les Sénégalais, bon, ils ont réalisé quand même un bon tournoi car ils avaient battu en match de poule en ces Nigériens. Donc ils ont manqué de chance peut-être et bon, il y avait la pression aussi au niveau de la demi-finale. Finalement, ils se sont classés à la troisième place. Je pense que la hiérarchie a été respectée. C'est le Sénégal qui a un peu régressé parce qu'éliminé en demi-finale par le Nigeria. Les Sénégalais se sont encore inclinés, hein, et pourtant les Sénégalais avaient réalisé un parcours sans faute. Ils se sont inclinés à nouveau face aux Aigles de Carthage. Finalement, ils terminent quand même à la quatrième place. C'est un recul, hein, si on regarde ce qui s'est passé en 2013. En 2013 à Abidjan, comme l'a dit notre frère, le Sénégal s'était classé quand même troisième, ce qui lui a valu d'être à la Coupe du Monde et d'être huitième de finaliste pour la première fois de l'histoire. Donc il y a des problèmes au niveau de cette équipe nationale du Sénégal, malgré quand même la bonne performance du joueur de la NBA, Gourgui Sidien, qui a été meilleur marqueur avec 169 points, qui a été meilleur rebondeur avec 104 points, et qui fait partie de l'équipe type, mais n'empêche, le Sénégal a terminé à la quatrième place. Et depuis la fin de l'Afro-Basket, il n'y a que des problèmes au niveau de cette équipe nationale du Sénégal. En ce moment où je vous parle, ils sont bloqués à l'aéroport international de Carthage, faute de billets et des réservations. Il y a eu également un problème de prime parce que le directeur de cabinet du ministre des Sports qui a débarqué a amené quand même une partie des primes et les joueurs ont refusé quand même de prendre cette partie. Ils ont réclamé tout ou rien, donc en ce moment. Et puis Antoine Mendy, qui a réalisé un très bon tournoi, vient de bouder quand même la tanière pour de bon. Il a dit qu'il arrête parce que non seulement la contre-performance est là, mais aussi les conditions difficiles de travail, pour vous dire que l'équipe nationale du Sénégal n'est pas encore sortie de l'auberge.
Merci Ahmedine Sy. Dommage pour cette équipe sénégalaise, le Sénégal qui est une grande nation du basketball africain et qui devrait servir d'inspiration aux autres. On espère que le basketball sénégalais se rattrapera après cet échec à l'Afro Basket 2015. Quelques réactions sur Facebook. Alassane Thune écrit: félicitations au Nigeria et courage à l'équipe du Sénégal. Notre fierté à Gourgui Sidien qui méritait le MVP. Et Fiston Barry écrit: pourtant je m'attendais à une victoire des Angolais. Et nous avons aussi notre ami Douramo Bondenso qui écrit très content de la victoire du Nigeria avant le match. La presse angolaise est allée trop loin avec les supporters qui ont minimisé l'équipe du Nigeria. Voilà VOA Afrique, Sporama, notre magazine des sports. Nous vous retrouvons dans un instant. Quelques nouvelles de football africain du week-end avec en Tunisie la victoire de l'Étoile sportive du Sahel en finale de la Coupe nationale contre le Stade Gabésien 4-3. Au Ghana, le trophée national est maintenant la propriété du Medama Sporting Club, victorieux hier par 2-1 de d'Asante Kotoko. Et le Stade malien, lui, a remporté samedi à Bamako la 55e Coupe du Mali en battant les 11 créateurs de Niarela 2-1. Kamel Diabour est le coach du Stade malien.
Moi, ça me tenait vraiment à cœur de gagner cette Coupe du Mali. Je pense qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la saison, on peut dire que le Stade malien est au-dessus de tout le monde. Donc ça s'est concrétisé par une finale. Un grand remerciement à l'équipe du 11 créateur qui nous a posé beaucoup de problèmes. Mais je pense que tactiquement, sur la fin, on a été meilleur. On a osé des choses, on a réussi.
Concrètement, quelle a été la force du Stade malien à la deuxième mi-temps?
En première mi-temps, on était perdus. Hein. On a joué avec nos émotions, mais en deuxième mi-temps, on a mis notre football en place, c'est-à-dire celui de jouer très court, de jouer dans les pieds, d'essayer de faire des décalages. Et ensuite, sur la fin, bah, oui, on a osé tactiquement, on a joué avec trois défenseurs, on a osé de mettre des joueurs qui nous ont donné un peu plus de vitesse et de force. Vous avez bien remarqué qu'en deuxième mi-temps, il n'y avait qu'un seul et unique sur le terrain, c'était le Stade malien.
Kamel Diabour, le coach du Stade malien. Djibril Dramé, entraîneur des 11 créateurs, est bien sûr déçu d'échouer si près du but.
Techniquement, c'est deux équipes de valeur presque égales. On a vu une grande équipe de Rennes qui a été en première mi-temps et une grande équipe du Stade malien en deuxième mi-temps. On a marqué en première position, on a eu d'autres occasions. Si on l'avait marqué, ça n'allait pas être comme ça. Mais il faut reconnaître qu'en deuxième mi-temps, le Stade est revenu sur le terrain avec beaucoup d'ardeur, beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination. Et de l'autre côté, il y a eu trop de plaintes suite à des blessures. Ça fait partie du football. Je crois qu'on a été victime de ces blessures inattendues qui a faussé notre stratégie de jeu. Cela ne veut pas dire que le Stade n'a pas mérité sa victoire. C'est un grand club. Je dis techniquement aussi, ils ont beaucoup de compétition dans les jambes, mieux que nous.
C'était là Djibril Dramé, entraîneur des 11 créateurs, le club de football malien. Des extraits fournis par notre correspondant Siaka Traoré à Bamako. Au plan continental, Jules-Valentin Gouet, la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017 se joue vendredi, samedi et dimanche. Quelques rencontres à suivre en particulier?
Oui, bien sûr. Et nous avons des rencontres décisives, peut-être déjà pas totalement décisives, mais sinon importantes, qui vont se jouer pendant ce tour. Et donc, effectivement, surtout pour les équipes qui ont perdu lors de la première journée, elles ont déjà le coup ferré sous la gorge. Donc, finalement, nous verrons très bien aussi l'évolution des équipes qui, au match aller, ont réussi à tenir les ténors, comme par exemple la Mauritanie.
Eugène, votre pays, la RCA, affronte la RDC. Votre pronostic?
Écoutez, pour le moment, nous sommes en pleine reconstruction depuis les événements politico-militaires qui se passent en République centrafricaine. Nous avons du mal à retrouver la place qu'on avait atteinte parce qu'on était parmi les 50 premières nations de football et il y a eu un relâchement. Disons qu'il y a un petit avantage à la RDC, mais comme on joue à la maison, je pense qu'il y a des fortes chances qu'on puisse obtenir la victoire.
Alors, parmi les rencontres de cette semaine, donc, on a notamment Namibie-Sénégal, les autres rencontres, donc, Namibie-Sénégal, Gabon-Soudan, Sierra Leone-Côte d'Ivoire, Madagascar-Angola. On a aussi Tchad, Égypte, Gambie, Cameroun. On aura également Zimbabwe, Guinée, Kenya, Zambie, Bénin, Mali, Libye, Cap-Vert. Ce sont là quelques-unes des rencontres de cette deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Avant de nous quitter, coup d'envoi ce lundi à New York de l'Open de tennis des États-Unis. Les regards sont tournés sur Serena Williams, victorieuse des tournois de Melbourne, Roland Garros et Wimbledon cette année. La tenniswoman américaine pourrait réaliser le Grand Chelem en s'imposant à Flushing Meadows, New York, ainsi qu'elle l'a fait sans relâche depuis 2012. Voilà, c'est tout pour Sporama. Merci à Jules Valentin Goué et Jeanne Péwa Pelema, à Medinsi. Merci à tous nos auditeurs. Rendez-vous tous les lundis soirs sur POA Afrique dans Sporama.